Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Stephen Elsley.
Bonjour, bonsoir. Quelques-uns ont plus d'imagination que d'autres, mais si tous les gamins ont des rêves, tous n'ont pas les moyens de leur donner vie et a fortiori de les partager avec des millions de personnes. C'est le cas du petit James, né le 16 août 1954 à Kapuskasing, dans la province canadienne de l'Ontario. Un crayon, un stylo, un pinceau, une feuille de papier, ni une ni deux. Il a passé sa jeunesse à dessiner, à peindre, à s'inventer des créatures et des personnages, à explorer le très haut, l'espace intersidéral, et le très bas, les profondeurs des océans. Et ses rêves, il les a réalisés puisque ce dessinateur méticuleux et talentueux est devenu réalisateur de cinéma. Un artiste du spectaculaire et de la démesure, un expérimentateur de nouvelles techniques qu'il a mis au service de ses créations qui figurent désormais dans la liste des plus grands blockbusters du cinéma. Terminator, Aliens, Le Retour, Abyss, Titanic, Avatar. L'exposition L'Art de James Cameron se déploie à la Cinémathèque de Paris jusqu'au 5 janvier et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Mathieu Orléans.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes co-commissaire de cet événement aux côtés de Kim Butts, la directrice artistique de l'Avatar Alliance Foundation. Cette exposition, elle présente plus de 300 œuvres, dont 280 originales et plus de 250 dessins réalisés de la main même de James Cameron. C'est peut-être d'ailleurs le principal enseignement que l'on peut en retirer, en fait. Avant d'être le cinéaste à succès que le monde entier connaît, c'est un formidable dessinateur. En fait, avant la caméra, c'est le crayon qui était son outil.
Bah comme beaucoup à cette époque, dans les années 60, de jeunes hommes dans le Canada, de la guerre froide, voilà, il y a une influence évidente des comics, des magazines, des romans, des films aussi qu'il allait beaucoup voir avec ses parents. Et tout ça ensuite, parce qu'il avait envie de le prolonger, se retrouvait sur des carnets, des papiers. Il inventait des univers, il inventait des histoires, il inventait des cadrages, il inventait des personnages. Quand je dis des histoires, c'est parce que souvent, déjà, il y avait l'idée qu'il y ait des bulles, qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait des sous-titres, qu'il y ait de la parole qui intervienne et qui fasse que quelque chose advienne de l'ordre du récit un petit peu. Et c'est vrai que voilà, c'était la manière la plus simple pour lui de mettre, d'incarner quelque part ce qu'il avait dans la tête, ses rêves aussi, car c'est un grand rêveur.
Oui, d'ailleurs, la première section de l'exposition est intitulée « Rêver les yeux grands ouverts ». C'est une formule absolument magnifique. Elle est de lui ?
Elle est de lui. En tout cas, il l'a formulée, il l'a peut-être reprise de quelqu'un d'autre. Et oui, parce que c'est un grand rêveur et c'est quelqu'un qui assume de parler de ses rêves. Il raconte peut-être pas tous ses rêves, mais il est plutôt sans filtre là-dessus. Ça me rappelait une exposition qu'on a fait il y a quelques années qui n'a rien à voir sur Federico Fellini, qui lui-même était très connecté à ses rêves et qui, suite à des séances de psychanalyse, les dessinait. C'était un Federico Fellini plus âgé. Là, on a un James Cameron qui, très jeune, affrontait les démons comme ça de la nuit, les rêves, les personnages qu'il y croisait, pour les incarner sur le papier ou sur la toile, parce qu'il dessinait déjà un petit peu avec des aquarelles, des pastels. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup et tout au long de sa vie, ses rêves ont été assez prémonitoires et l'ont accompagné. C'est pas simplement un adolescent qui rêvait à 14 ans. Il raconte que plus tard, il a fait, avec une fièvre terrible qui a surgi comme ça en Italie où il était, un rêve d'un cyborg surgissant d'un incendie qui a été quelque part la première image iconique de ce qui deviendra Terminator. Et donc voilà, le rêve fait vraiment partie du dispositif créatif de James Cameron.
Alors, il rêve d'aliens, de vaisseaux spatiaux. Il y a en particulier un dessin de combat aérien qui est absolument extraordinaire, je trouve. Il lit beaucoup les comics Marvel. Vous le disiez, les 4 Fantastiques, par exemple. Il est très intéressé par les mains des personnages.
Ouais, exactement. Il aime l'anatomie. Il y avait beaucoup de livres d'apprentissage de dessin autour du corps humain. C'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de son œuvre. Effectivement, dans des dessins d'enfance, ce côté distorsion du corps avec tout d'un coup un focus sur un doigt, un pied, un œil qui se met à grandir et à devenir disproportionné. On retrouve peut-être aussi là un héritage surréaliste dont il revendiquait quelque part, oui, une influence peut-être autour de Salvador Dali.
Oui, d'ailleurs, il y a clairement un dessin où les montres molles de Dali sont représentées.
Exactement. Il aimait beaucoup aussi les dessins de Kirby, Jack Kirby, de Fred Zeta, donc tous ces gens qui, aux États-Unis, avaient réinventé cette pop culture, les héros des comics, les Marvel. Donc ce goût, effectivement, d'une anatomie qu'on retrouvera, je disais, bien plus tard, parce qu'il a ce souci d'un certain enracinement, d'une certaine vérité, de quelque chose qui doit, pour créer l'empathie et pour créer l'éveil du spectateur, être basé sur quelque chose qui ne soit pas totalement fictif. Il le raconte pour bien plus tard, encore une fois, 2009, pour Avatar, le premier volet de la saga. Quand il s'agissait d'inventer qui était ce peuple de la lune Pandora, les Na'vi, il fallait leur donner une anatomie, il fallait leur donner quelque chose qui puisse ressembler à l'être humain tout en étant décalé. Et il s'est beaucoup renseigné à l'époque sur des particularités anatomiques, sur des particularités aussi de certaines peuplades, de faune. Enfin, il y a tout un mélange de choses, mais basé souvent sur des, comme souvent chez lui, sur quelque chose d'un peu scientifique. Quoi.
On y reviendra, hein. On va parler de plusieurs de ces films, et pour rester justement dans la façon dont James Cameron rêvait lorsqu'il était très jeune, lorsqu'il était enfant, donc vous parliez effectivement de toute la dimension culture populaire, il y a aussi une vraie dimension scientifique, parce qu'il lisait alors, notamment des manuels de science. Ça veut dire que dès le départ, il rêvait, mais en même temps, il y avait toujours le souci de comprendre le monde dans lequel le jeune homme vivait.
Oui, exactement. D'ailleurs, il a fait des études.
L'impact de la science, de la technologie, ça s'est passionné.
Voilà, il a plutôt fait des études d'ailleurs scientifiques, il n'a pas fait d'études artistiques ni des études de cinéma. Il a appris sur le terrain, il a fait des études de science, donc il avait à sa portée effectivement un nombre de livres techniques, de livres scientifiques, de livres théoriques qu'il adorait lire. Il racontait à un moment donné qu'il lisait tout confondu un livre par jour, donc c'était un très très grand lecteur. Et il avait cette passion qui fait qu'il racontait à quel point il était parfois en décalage vis-à-vis des jeunes de son époque, ou même quand il a fait ses premiers boulots, parce qu'il en connaissait beaucoup plus que tout le monde en termes de science, en termes de réalité technique. Et ça, effectivement, ça a compté pour lui. Il lisait, disons, en parallèle la science-fiction et la science, les deux allant ensemble. Il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui par leurs récits, remettent en cause ou essayent de mettre en garde contre des réalités scientifiques. Et lui, avait un pied dans les deux. Et on le retrouve effectivement dans les dessins avec ces visages d'Einstein, ces équations, ces codes, ces chiffres qui montrent une prédisposition à l'inventivité technique et scientifique.
Alors, on a parlé de littérature, on a parlé de dessin, on a parlé de presse. Et le cinéma, Mathieu Orléans, qu'est-ce qu'il regardait le jeune James Cameron ?
Alors d'abord en Ontario, et puis ensuite ses parents vont déménager aux États-Unis, en particulier en Californie. Donc là, il y a tout d'un coup une extension parce qu'il est très près d'Hollywood et qu'il y a beaucoup de cinéma, il y a la télévision, donc c'est typique de cette génération qui grandit à la fin des années 60, le cinéma devient très important pour lui. Il raconte à quel point il était influencé par les films un peu série B, série Z, les films de Robert Wise, les films d'extraterrestres, les films de planètes et de femmes préhistoriques, les créatures des lagons et autres qui étaient une source d'inspiration. Et puis, il voit qu'au milieu de tout ça, il a ce goût pour la science-fiction, on vient de le comprendre, il y a des films qui sortent du lot. Il y a 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, adapté d'un livre de Clarke qui sort en 68 et qui a été un vrai choc pour lui, dont on va ailleurs retrouver des échos dans ses peintures de l'époque. On retrouve les peuples préhistoriques, on retrouve un monolithe au milieu d'un désert, on retrouve ce mystère, cette étrangeté. Il voit qu'il y a une différence avec Kubrick. Et donc, il a ce mélange culture plutôt d'auteur, plutôt culture populaire, qui va façonner un petit peu sa vision du cinéma et qui reste des références clés pour lui.
Alors, avec un de ses camarades de fac qui va se lancer dans un projet de long métrage de science-fiction qui ne verra jamais le jour, hein, mais dont on retrouve l'influence tout au long du parcours de l'exposition et donc tout au long de ses différentes créations. C'est un projet qui est intitulé Exogenesis. On est en 1978, je dis une bêtise.
Xénogénésis. Il n'y a pas de E.
Voilà, absolument. Merci de rectifier. Alors, de quoi s'agit-il exactement ce projet qui, encore une fois, est vraiment partout dans l'exposition et qu'on n'a jamais vu sur écran?
Alors, il est partout parce qu'il y a beaucoup de dessins. Et pourquoi il y a beaucoup de dessins? Parce qu'il n'a pas pu faire le film. Donc, on ne peut pas faire le film. Il trépignait, il attendait, il voulait convaincre des gens avec ce copain de fac, Randy Frakes. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de dessins. Il y a parfois un rapport inversement proportionnel. Le film ne se réalise pas. Bah, du coup, il y a beaucoup de dessins. Et des dessins très beaux parce qu'il y a à la fois des dessins techniques, des storyboards. Il imagine même déjà l'affiche du film. Et puis, des dessins presque picturaux, des grands formats avec des couleurs. C'est un film dont il dira lui-même après. Vous verrez pourquoi que c'est un peu l'ADN de tout son cinéma, qu'on y retrouve un certain nombre de thèmes qu'il va ensuite déployer dans certains autres de ses films. Qu'est-ce que ça raconte? L'histoire d'un pilote qui a la mission pour sauver l'humanité, d'emmener des embryons cryogénisés en dehors de la planète Terre qui va être bientôt détruite par un énorme trou noir. Et donc, il est dans ce vaisseau spatial qui pourrait ressembler un peu à du Aliens. À un moment donné, il est attaqué par une force maléfique qui fait qu'il perd son bras, donc il est à moitié robot. Ça aussi laisse préfigurer un peu de la machine humaine qu'est Terminator. Et puis, il y a tout un tas d'aventures qui va lui arriver de planète en planète. Il va se rendre compte qu'il y a des gens qui se sont introduits dans le vaisseau spatial et dont il n'était pas au courant. Une histoire d'amour, un ordinateur qui est presque une intelligence artificielle, tout droit sorti là encore de 2001, et jusqu'à une peuplade bleue qu'il va retrouver sur une planète et qui annonce déjà un petit peu le peuple des Navy de Pandora. Donc, beaucoup
on
de choses.
Tout est là, quoi. C'est extraordinaire. Voilà. Il y a encore quelques idées d'ailleurs qui pourraient éventuellement ressortir du tiroir pour un prochain film.
En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être l'idée que des gens se l'approprient avec à la fois ses dessins et peut-être une réinterprétation pour en faire un livre. Ça mériterait vraiment d'être une sorte de comics, de bande dessinée créative, une bande dessinée d'adultes.
Mais aujourd'hui, il a les moyens de le faire au cinéma, ce projet-là. On ne pourrait rien lui refuser, non ?
Bah, visiblement, il a l'air d'être parti sur la saga des Avatars et je le comprends parce qu'il a envie d'explorer ce monde à différentes facettes. Donc je sais, il l'a dit dans la presse, c'est pas du tout personnel parce que c'est quelque chose de très connu qu'il a l'Avatar 3 presque fini, puis le 4, 5, 6 prévu dans les tiroirs. Donc j'ai l'impression qu'il est parti sur d'autres choix, mais en tout cas que ça reste quelque chose d'une référence et il avait très envie que Xenogenesis, effectivement, comme vous disiez, puisse quelque part rythmer l'exposition et se retrouver à différents moments du parcours. Et c'est un film dont on a aussi, parce qu'il n'y a pas d'image, il y a quand même 10 minutes qui ont été créées, on monte 5 minutes dans l'exposition, qui sont évidemment très approximatives, un peu artisanales. Il aime bien dire à des gens, faut pas être intimidé par le cinéma, regardez comment j'ai commencé, on peut commencer en faisant des choses complètement brinque-ballantes et finir là où je suis. Des plans qu'on a gardés dans l'expo, il y a un petit côté aliens d'une femme qui essaie d'affronter un monstre, on retrouve déjà ces femmes héroïnes, ces femmes au super pouvoir. Voilà, en tout cas, c'est un film peut-être d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup d'images, qu'on peut en rêver, que le spectateur du coup peut imaginer son propre film. C'est aussi pour ça qu'on l'a mis, c'est une porte ouverte et que les gens peuvent se l'approprier et chacun faire son film, son propre film.
Alors, pas beaucoup d'images de films, mais énormément de dessins, énormément de peintures autour de ce projet Xenogenesis. C'est le dessin, Mathieu Orléans, qui en fait, c'est le dessin qui est la clé qui lui a ouvert la porte du cinéma, on peut dire ça comme ça?
Oui, complètement. Ça a été le moyen qu'il avait quand il était jeune de s'exprimer, parce qu'il n'avait pas forcément les moyens de faire autrement, et puis que de toute façon, c'était par l'imaginaire, c'était par quelque chose de fantastique, donc ça ne s'incarne pas par le texte, en tout cas pas uniquement, par la photo encore moins, donc ça passait par le dessin. Et puis après, il ne faut pas oublier que, d'ailleurs c'est l'époque de Xenogenesis, on est dans les années fin 70, 78, c'est un moment donné où il travaille déjà pour l'industrie du cinéma et où il met à profit ses talents de dessinateur pour d'autres. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment eu ce talent de pouvoir travailler. Alors quand je dis pour d'autres, c'est qu'il va faire par exemple des effets spéciaux de matte painting pour John Carpenter. Faut dessiner pour faire des matte painting. Il
va New faire York 97.
New York 97. Il va faire aussi des dessins pour un film produit par Roger Corman, dont il est le chef décorateur, qui s'appelle La Galaxie de la Terreur, qui est un film qui était passé un peu en dessous des radars en France, mais qui était une réponse possible de Corman au succès d'Alien, donc qui est un film qui a des points communs avec Alien, et on trouve dans l'expo des très très beaux dessins de pyramides, de personnages perdus. Ce sont des dessins, et ça aussi c'est une spécificité dont il dessine beaucoup, mais des dessins faits sur du papier noir. Il aime beaucoup travailler sur du papier noir parce qu'il dit que c'est le meilleur moyen de faire venir la lumière, donc il y a déjà cette idée de la lumière qui est propre au cinéma, et avec du crayon blanc, donc des très très beaux dessins. Et puis il était affichiste. Donc là aussi, il dessinait, il faisait des affiches de films pour payer son loyer, mais il mettait à profit son talent de dessinateur. Et ça, c'est quelque chose que les gens ignorent, je crois. Et donc la première salle de l'expo, elle est beaucoup sur les talents de dessinateurs mis au service des autres. Stop playing with them, Riot. Yeah, pretty girl, me no do no keys and tail. As long as you treat me well, I will treat you more than Jim. Me no send my chain. My real flex. Hey, I give me promise you ain't gonna belong me. Looking at you, got my eyes wide, damn. Got my eyes wide. Looking at you, got my eyes wide, damn. So out of this world like sci-fi. Looking at you, got my eyes wide, damn. Looking at you, got my eyes wide. Looking at you, got my eyes wide, damn. So out of this world like sci-fi. I am the one that got loud the bands. Who you becoming? Well, that depends. Jump in the air, I perfect my stance. Jump to the floor, I just wanna dance. Yeah, you the one, there's no number two. If I had three wishes, I'd waste them on you. Watch where you stay, got faces on me. No wasters on me. Real.
don't know what it was, but you get it. Big three words out your mouth and you meant it. You could get it, play your cards right, bet it. It's our life, so baby, let's live it. Hate us super mad, we got them all living. Think about my future, got you all in it. Shooting for the stars, the sky has no limit.
Yeah, pretty girl, me no do no keys and tail. As long as you treat me well, I will treat you more than gin. Me no send my chain, you are my real flex. Yeah, give me promise, you ain't gonna belong.
Pretty Girl, I Spy, c'est Rema dans VMDN sur RFI autour de l'exposition L'Art de James Cameron à la Cinémathèque française à Paris. Nous sommes à présent en 1984 et voici qu'après Pretty Girl arrive un autre genre de beauté, voici Terminator. Alors évidemment, il y a un mannequin grandeur nature hein, dans l'exposition d'Arnold Schwarzenegger, les tripes à l'air aux côtés de son bras mécanique et, qui donne un peu des allures de Madeleine de Proust, hein, j'imagine, pour nombre de visiteurs de l'exposition. Mathieu Orléans, là on est dans la deuxième section hein, du parcours nommé La machine humaine. Et c'est vrai que les cyborgs, les robots, les androïdes, James Cameron en a créé quelques-uns. Il y a une version androïde d'ailleurs sur un des murs, donc hybride humain et robot de l'homme de Vitruve, hein, de Léonard Vinci. Et puis il y a aussi dans l'exposition, vous y faisiez référence tout à l'heure, la toute première image de Terminator. Vous pouvez nous la décrire et nous dire dans quel contexte elle a été réalisée ?
Donc à l'époque, James Cameron, en 82, 81 même, n'a pas réalisé de film. Encore, il a le souhait d'en réaliser. Il est en Italie pour la promotion d'un film qu'il a été contraint de signer, qui s'appelle Piranha 2, mais dont il ne revendiquera jamais la paternité par la suite. Il est malade, peut-être de dégoût de tout ça, parce qu'il a été en conflit vraiment très ouvert avec la production de ce film, et il dit qu'il fait, avec la fièvre qu'il a, l'angoisse, un rêve, un cauchemar, dont il se souvient d'une image d'un cyborg sorti des flammes. Il a une intuition de ce que pourrait être l'histoire derrière, qu'il a un petit peu oublié comme souvent dans les rêves, et donc son travail va être pendant des mois d'écrire, de raconter quelle est toute la fiction derrière cette image, quoi, d'un cyborg tueur, d'un cyborg méchant, d'un cyborg venu du futur, d'un cyborg qu'il faut éliminer, et tout d'un coup, voilà, tout va se mettre en place, l'histoire de Sarah Connor, l'histoire d'amour, l'histoire de... Voilà, on connaît très bien, effectivement, vous l'avez dit, c'est une Madeleine de Proust, c'est culte, et donc c'est un film sur laquelle il a relativement beaucoup dessiné. Pareil, pour convaincre, à l'époque, il n'a pas de producteur attitré, donc il doit convaincre, il doit montrer à quoi ça ressemblerait. Il a conscience que les effets spéciaux de l'époque ne sont pas adaptés pour peut-être aller aussi loin qu'il le souhaiterait dans le fantastique. Donc, il va devoir faire avec des effets spéciaux un peu mécaniques de l'époque, type maquillage très sophistiqué. Et c'est un film qui va être évidemment un très grand succès. Il joue pour beaucoup aussi. Il y a vraiment des enjeux de mise en scène. Mais bon, Schwarzenegger, dont c'est un des premiers... premier grand rôle après Conan. Il a attendu d'ailleurs pour le faire. Quand ils se sont rencontrés, il a tout de suite pensé que c'était le personnage génial pour jouer le méchant cyborg, le fameux T-800. Donc il va l'attendre parce que Schwarzenegger est déjà sous contrat et n'est pas disponible. Et donc ce temps d'attente, c'est aussi un temps de dessin, un temps d'anticipation, un temps de réflexion. Un film qui est un peu un cyberpunk. C'est l'époque de Blade Runner avec cette musique de Fiddle. Là, la musique qui est très... électronique, musique qui, je crois, était au départ un peu calquée sur des battements de cœur. On sent un homme angoissé ou une femme angoissée, on sent la pression. En même temps, c'est toute l'époque avec qui revient, je trouve, avec cette musique.
Qu'est-ce qui le fascine chez le principe même de l'homme augmenté ? C'est la dimension technique, c'est la dimension philosophique ?
Je crois que c'est un peu les deux, parce que ça vient jamais totalement par hasard. Il est quand même, je disais, nourri de romans de science-fiction, et ces romans de science-fiction sont des prédictions sur l'avenir, des mises en garde. Peut-être à l'époque, on ne disait pas encore intelligence artificielle, mais il y a quelque chose dans le film d'une réflexion sur une lutte ancestrale possible entre l'homme et la machine, et que évidemment les deux ont des choses à partager, ont des choses à s'apporter. Ça, c'est le versant positif qu'on va retrouver par exemple dans Aliens, où à un moment donné, à la fin, pour la seule moyen d'affronter la reine alien, la terrible reine alien, le personnage d'Hélène Ripley, interprété par Sigourney Weaver, doit monter dans une sorte de robot de charge et devenir quelque part un peu robotique. Là, c'est de la robotique mise au service de l'homme qui permet de décupler ses forces et d'avoir un corps plus massif, plus puissant et d'affronter les figures maléfiques. Alors qu'évidemment, dans Terminator, c'est plus ambigu parce qu'il y a différents types de cyborgs, mais il y a des cyborgs qui sont comme ça, téléguidés, n'ont pas d'humanité et sont même prédisposés à détruire ce qui reste des êtres humains. Et donc, voilà, c'est la question déjà à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passerait si on donnait trop de pouvoir à la machine, cette machine que l'homme a pourtant créée, et qui se rebellerait contre l'homme et qui voudrait l'anéantir. Donc,
alors justement, au final, méfiance ou admiration pour la technologie et pour l'évolution technique, progrès ou régression humaine?
Il disait quelque part, j'avais lu qu'un monde, le pire désastre pour l'humanité ou pour le monde, pour la Terre, ça serait qu'il n'y ait plus de progrès. Parce que ça voudrait dire qu'on s'est arrêté quelque part. Donc je pense qu'il y a la dimension de progrès, de dépassement et clé fondamentale, mais qu'à un moment donné, il y a une mise en garde. Ça peut aussi se retourner, si c'est fait à mauvais escient, dans des mauvaises mains, ça peut se retourner contre l'être humain. Donc je dirais que c'est les deux qui coexistent.
Donc c'est l'être humain qui, en utilisant mauvais escient les progrès techniques,
exactement,
peuvent les retourner...
Voilà.
Contre l'humanité.
Et je trouve que toute cette ambiguïté, on le retrouve par exemple dans le Terminator 2 qui a été fait des années après le premier, qui est beaucoup plus, en termes de technologie, qui parce qu'il a travaillé à l'époque avec la société de George Lucas, qui était lui-même à la pointe sur les effets spéciaux. Donc déjà, les films ne se ressemblent pas forcément au niveau formel, parce qu'il y a, clairement un pack qui a été... je ne dis pas que ce n'est pas qualitatif, parce que Terminator, le premier, est très très puissant aussi visuellement, mais il y a quand même un saut quantitatif, disons, d'effets spéciaux, de pouvoir de production de ces effets spéciaux. Et aussi, ça montre peut-être plus l'ambiguïté, parce que dans Terminator 2, il y a deux cyborgs, alors qu'il n'y en a qu'un dans le premier Terminator. Et dans le 2, les deux sont très antinomiques. L'un est vraiment, dans la suite du premier, le pur tueur fait pour détruire l'humanité sans cœur, alors que l'autre, cette fois joué par Schwarzenegger, a une forme d'empathie et va presque évoluer à travers le film. À un moment donné, il y a une scène assez connue où il est avec l'enfant dans la voiture, avec laquelle il a un rapport presque paternel. Il le voit pleurer, il lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive avec ton œil ?» Il ne comprend pas très bien ce que c'est l'émotion et on lui apprend et on sent que lui-même va pouvoir, à un moment donné, prendre en charge cette émotivité. Et ça laisse une porte ouverte à une hybridation possible homme-machine et que l'homme va prendre des choses de la machine et la machine peut aussi prendre des choses de l'homme positives comme l'émotivité. Donc, assez nuancé comme dialogue, comme
alors,
discours.
Vous parliez d'effets spéciaux il y a un instant, Mathieu Orléans. Est-ce qu'on peut dire que, de ce point de vue, James Cameron a toujours été à la pointe? Est-ce qu'on peut dire que c'était un progrès ou est-ce qu'il était bien obligé, finalement, de faire avec ce qu'il avait?
Il y a une base qui, oui, on est obligé de faire un peu avec ce qui existe, surtout dans une industrie comme celle du cinéma. Mais il s'est donné les moyens de pouvoir incarner ses idées, ses rêves, et donc de bousculer et de pousser les limites. Et donc, c'est quelqu'un qui va, dès qu'il en est capable, parce que dès qu'il en a les moyens, de vraiment...
Les moyens financiers, vous voulez dire?
Financiers, voilà. De se mettre mettre ses idées au service de la technologie, donc de créer vraiment des dispositifs totalement nouveaux. Donc, au départ, il va s'associer avec des techniciens, des scientifiques, qui sont ceux, je l'ai dit tout à l'heure, de George Lucas, de Industrial Light and Magic, qui sont des gens qui vont pouvoir, à partir d'une idée, d'un dessin, rendre possible, réel, des visions de corps se transformant en liquide, de corps sortant du feu, de têtes explosant et se recréant aussitôt. Enfin, des choses qui vraiment n'étaient pas possibles à l'époque. Quand on regarde en fait Terminator et Aliens, c'est vraiment assez rudimentaire comme en termes d'effets spéciaux. Et donc, oui, voilà, il va créer tout ça au point que dans les années 90-93, il va créer sa propre société de production d'effets spéciaux pour s'autonomiser, pour mettre au travail des scientifiques, des chercheurs et pouvoir se donner les moyens. La première occurrence, ça sera donc Titanic, de créer des images, des visions à la hauteur de ses envies, de ses rêves. Donc, c'est quelqu'un qui n'a de cesse, jusqu'à évidemment Avatar, on n'en parle pas, qui multiplie le nombre de nouveautés en termes de nombre d'images par seconde, de qualité de son, de 3D, de performance capture. On est là vraiment dans un aboutissement technologique, mais toujours au service d'une histoire. C'est un grand raconteur d'histoire. Et tout ça va de pair chez lui.
Nouvel extrait de film. D'ailleurs, vous l'avez évoqué il y a quelques secondes. Je suis sûr que ça va vous dire quelque chose. C'est une scène culte.
« Ne la touche pas, sale pute!
Et la sale pute qu'a juré Sigourney Weaver, le personnage de Sigourney Weaver, c'est la reine alien à laquelle James Cameron a accordé visiblement un soin particulier, Mathieu Orléans, et l'exposition la met en vedette à travers une projection immersive. Est-ce que vous pouvez nous la décrire à ceux qui n'auraient pas vu le film déjà et nous raconter comment elle est sortie de l'œuf, si je veux dire?
C'est vraiment une invention de Cameron, pour le coup. Comme vous savez, Aliens, le retour, c'est le deuxième épisode d'une saga qui a été créée par Ridley Scott, écrite par O'Bannon, avec les idées de Giger, de cet alien. Donc, il arrive tout d'un coup...
Giger, c'est le plasticien suisse. Hein.
Exactement, qui a créé l'alien sur les idées du scénariste. Donc, c'est un cas un peu à part, parce que c'est vrai que la plupart des autres personnages fantastiques d'Avatar, de Terminator, d'Abyss, sont des créations totales de son univers, de sa tête, de son cerveau. Il n'a pas besoin de personne d'autre, disons, pour les créer. C'est vrai que là, il met les pieds dans une saga. Je pense qu'il avait très envie de le faire, mais il avait envie d'inventer, de mettre sa patte et de créer quelque chose. Et c'est vrai qu'il se disait qu'après tout, chez Scott, l'alien était plutôt une sorte de guerrier viriliste. On le voit assez peu, d'ailleurs, dans le premier film. Il est souvent hors champ, il disparaît. C'est cette tension, d'ailleurs, qui a fait le succès du film. Et lui, il avait envie de créer autre chose. Et comme il s'intéressait déjà à ces figures féminines, une héroïne qui a des super pouvoirs, dans le film, Ellen Ripley, interprétée par Sigourney Weaver, adopte quelque part une enfant qui a été la seule survivante d'un massacre d'aliens dans une colonie d'humains sur une autre planète. Elle est une mère, et il s'est dit, après tout, l'énergie peut-être sur Terre la plus profonde, celle qui décuple tout, c'est de l'instinct maternel. Et donc, il faudrait qu'elle ait en face d'elle une alien plutôt maternelle, une mère. Et donc, tout d'un coup, lui est venue toute l'idée de créer une généalogie, une filiation, comme dans certaines sociétés animales où il y a, chez les abeilles, chez les fourmis, une reine pondeuse. Ça rejoint ce que je disais au début sur le fait que la science est toujours là, qu'il a beaucoup lu, qu'il s'enracine sur des choses tout à fait biologiques, anatomiques, réelles. Et donc, il a créé vraiment cette reine alien. Et il a imaginé les œufs, il a imaginé tout ce cycle qui n'était pas aussi présent de manière aussi claire, voire pas claire du tout, dans le film de Ridley Scott, qui n'était pas sa préoccupation. Et donc, pour tourner cette scène d'affrontement de deux femmes, de deux mères, qui veulent toutes les deux protéger leur progéniture, il a dû passer par là. Et donc, dans l'expo, c'est vrai qu'on a des magnifiques dessins, alors parfois très techniques, parfois voilà, très simples, et puis parfois des choses qui sont plus comme des tableaux sur fond noir, avec vraiment un travail de lumière, un travail de couleur. Donc, on a des choses très variées, et on voit cette dimension un peu féminine de l'alien. Il y en a un qui nous amusait beaucoup, qu'on voit dans l'expo, avec une sorte de délicatesse dans la jambe. On dirait presque qu'elle porte une chaussure à talons, évidemment non, mais il a inventé quelque chose, il a vraiment participé au mythe Aliens en y apportant sa touche, quoi.
C'est-à-dire que c'est lui qui fait les dessins et puis ensuite qui les transmet à ce qu'on appelle donc les concept artistes qui ensuite les construit en 3D.
Voilà, exactement. Il dit souvent que le meilleur moyen, après tout, pour incarner une idée qu'on a dans la tête, on essaie de décrire avec des mots, c'est pas toujours facile. Donc il prend un crayon, il prend parfois, si c'est plus sophistiqué, il prend de la gouache, il prend du pastel et ça devient vraiment presque une œuvre d'art. Mais souvent, il y a aussi dans l'exposition des choses qui sont un peu d'ailleurs sur des papiers parfois abîmés parce qu'on sent qu'ils sont passés dans les mains de plein de gens. Il fait un dessin, alors soit d'une image qu'il a en tête, soit déjà parce qu'il a une idée de la technique et qu'il n'arrive pas à l'expliquer, qu'il essaie d'imaginer une jointure, qu'il essaie d'imaginer comment ça va fonctionner. Et puis, il la communique effectivement à des concept artistes. Il la communique aussi au chef des effets spéciaux, par exemple Stan Winston, qui a gagné nombreux d'Oscars. Il a beaucoup travaillé sur Aliens avec lui. Il lui a communiqué beaucoup de dessins pour créer ses effets spéciaux. Il les donne aussi à son chef décorateur. Je ne sais pas si on y viendra plus tard, mais pour Titanic... Faut pas oublier qu'avant de tourner le film, 2 ans avant, il va dans un submersible, James Cameron, et il descend voir l'épave du Titanic.
Ça, il avait besoin de le faire.
Voilà. C'est bon, il y a un goût pour les explorations, un goût pour la découverte de la planète. Il a cet engagement aussi écologique, cette réflexion sur la destruction de il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur le Titanic, mais surtout, il a envie d'être toujours encore une fois dans une forme de véracité, de vérité historique. Et donc, puisque dans le film, on va voir le Titanic aussi sous forme d'épave, qu'il va falloir le recréer, il va falloir la recréer, cette épave, il veut qu'elle soit la plus fidèle possible à ce qu'elle est vraiment. Et donc, il va descendre avec des scientifiques russes dans un submersible à plusieurs reprises en 80. Il va filmer quelques plans dont peu seront utilisés dans le film, mais pour recréer l'épave, il va dessiner de mémoire ce qu'il a vu à ce moment-là, donc les magnifiques cabines de première classe, vermoulues, abîmées, détruites. Il va faire des dessins. On voit dans l'exposition 5 très 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 beaux dessins réalisés, alors non pas après un rêve, mais d'après un souvenir un peu embrumé. Et il va les donner à Peter Lamont, qui est son chef décorateur pour le film, et qui va avoir la mission de recréer l'épave identique, vraiment très fidèle, au dessin et donc à la vision que seul Cameron a eue, parce qu'il n'est pas descendu avec son équipe à 4000 mètres sous terre, il est descendu seul.
Oui, mais après, il est même allé encore plus loin dans les fosses des Mariannes, en plein océan Pacifique, donc visiblement, il aime bien l'ivresse des profondeurs.
Exactement, ça on l'aborde moins dans l'expo,
oui,
parce que ça n'a pas...
c'est pas vraiment pas le lien avec le cinéma, voilà, mais ça montre la dimension exploration, expérimentation et la volonté d'aller voir par lui-même. Quoi.
Voilà, il a fait quelques documentaires, dont des documentaires, on le connaît, 3D, Ghost of the Abyss, Aliens of the Deep, qui sont aussi sur sa partie plutôt exploration, qu'on aborde moins parce que voilà, on voulait pas mélanger documentaire fiction. Les documentaires sont aussi basés sur, je l'ai dit, une réflexion philosophique, écologique, responsable, etc. Donc, qui est encore un autre thème. On peut pas tout traiter sur 600 mètres carrés, donc on est resté plutôt sur la fiction. Mais là, voilà, Titanic permet cette interface entre fiction documentaire parce que, encore une fois, il a vraiment été visiter cette épave, ce qui était ce que moi-même je ne savais pas avant de préparer l'expo, donc il n'y a pas quelque chose qui est forcément connu du grand public, parce que
voilà, imagine... Challenger Deep en 2012,
ça c'est autre chose, voilà. Ça c'est les fosses Mariannes, voilà.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Musique de James Horner, vous avez évidemment reconnu la bande originale du film de James Cameron, Titanic, et singulièrement la scène du portrait, et c'est une scène qui est peut-être dans l'exposition l'un des moments peut-être les plus émouvants, je trouve, hein, du parcours. On se souvient évidemment de Rose, le personnage féminin incarné à l'écran par Ken Wislet, hein, tout le monde, les fans du film se souviennent justement de cette scène du portrait quand Jack, le personnage de Leonardo DiCaprio, la dessine couché sur un sofa. On se souvient des échanges de regards, on se souvient de la mine de graphite de Jack et du croquis qui peu à peu prend forme. Et le dessin, en vrai, c'est pas DiCaprio qui l'a réalisé, désolé pour les fans, c'est Mathieu Orléans.
James Cameron.
C'est James Cameron lui-même, et on voit effectivement le dessin de Cameron dans l'exposition. C'est la première fois, hein, je crois, qu'il est exposé.
Exactement. Tout ce qui est montré dans l'expo est inédit. Et oui, c'est étonnant de se dire que c'est le seul film dans lequel, évidemment, tout ce qu'on vient de dire sur le talent de dessinateur, le talent de peintre de Cameron va non seulement être pour la préparation d'un film, pour son élaboration, mais va se retrouver aussi, c'est le cas dans Titanic, c'est le seul cas, comme un objet de cinéma dans le film, parce que c'est le seul cas de sa carrière où il y a effectivement un personnage de peintre, Leonardo DiCaprio, qu'en plus sa peinture va être un des enjeux de la rencontre amoureuse entre les deux personnages, lui et Rose, interprété par Kate Winslet. Elle voit ses dessins, elle les trouve beaux, elle a envie de le rencontrer. Et ses dessins, donc, ils ont été réalisés en amont par Cameron. Il avait envie de les réaliser, évidemment, parce que tout d'un coup, toute cette histoire que seul lui savait était mise à contribution de ce projet. Et je pense que ça devait beaucoup l'exciter, beaucoup lui plaire. Et puis, il y a une scène où il réalise un dessin en direct, qui est effectivement le moment, peut-être avec la charge érotique la plus forte, où Kate Winslet se déshabille devant lui, où on sent que la rencontre amoureuse se concrétise, où qu'elle va petit à petit abandonner, suivre son désir et abandonner cette société qui l'a contraint et dans laquelle elle a, voilà, dont elle a envie de s'émanciper. Et donc, on voit en direct le dessin en train de se faire, et c'est Cameron qui dessine. Le cadrage fait qu'on ne voit qu'une main, et qu'en fait, la main qu'on voit dessinée n'est pas celle de Leonardo DiCaprio, mais bien celle de James Cameron. Et alors, il y a une petite supercherie, parce que Cameron est gaucher, Leonardo DiCaprio est droitier.
D'accord.
Donc, il a fallu tourner naturellement comme il dessine Cameron de la main gauche, et ensuite faire une sorte d'inversion grâce aux effets spéciaux, encore une
D'accord.
fois,
ah, oui.
pour ça. Et pour qu'on puisse avoir l'impression que quelqu'un dessine de la main droite alors qu'en fait il dessine de la main gauche.
Voilà, l'envers du décor de cette scène vraiment iconique de Titanic racontée par l'exposition et par vous, Mathieu Orléans, sur RFI. Alors on découvre aussi les croquis des personnages de Titanic dans un portfolio. On a un peu l'impression que, je ne dirais pas que ça l'ennuyait de dessiner, mais enfin il l'a ressenti comme une vraie contrainte justement, la confection de ce portfolio. Il s'est beaucoup inspiré de photographies pour imaginer les différents personnages, parce qu'ils sont extrêmement nombreux dans le film.
Oui, exactement. C'est vrai qu'il raconte dans le livre que nous avons édité avec Guin et Menin, qui est donc un livre original Technoir, l'art de James Cameron, où l'on voit les dessins, et les dessins sont accompagnés de petites anecdotes, la plupart du temps, que seul lui connaît. Et effectivement, il raconte à cette occasion.
C'est lui-même qui raconte. Hein.
C'est lui-même qui raconte, toujours écrit à la première personne, sauf les textes d'introduction de partie. Et il raconte effectivement à quel point il était, on imagine, hein, recréer le Titanic, en tout cas quasiment en entier, au Mexique, les millions qu'il avait sur le dos, les acteurs. C'est un film dans lequel les producteurs de la Fox ne croyaient pas. On a du mal à s'en souvenir, mais ne croyaient pas. Donc c'est un film compliqué. Il avait peut-être d'autres choses à régler que de dessiner ce que devait lui rappeler son assistant, des dessins pour le portfolio de Leonardo DiCaprio. Donc il les a fait effectivement, il le raconte dans l'anecdote, un peu en retard, un peu de manière contrainte entre guillemets. Mais donc ça, c'est plutôt pour la petite anecdote. Il y a quelque chose qui dit pas là, mais qui me semblait intéressant, c'est que il y a dans cette scène là le dessin, il y a la question du regard, évidemment, comment Leonardo regarde Kate Winslet, et il y a cette fameuse phrase qui dit I see you. Donc il se voit, ça veut dire aussi qu'ils se comprennent à travers le dessin. C'est une phrase un peu culte de Titanic. Et étrangement, des années après, on va la retrouver dans Avatar, la manière dont les Navy se disent bonjour, c'est « I see you ». Il raconte lui-même qu'il avait oublié que cette phrase venait de Titanic. Dans l'exposition, on s'est un peu amusé pour cette raison à avoir Kate Winslet qui regarde, et si on voit dans la perspective au fond, on a un portrait de dessin de Nétiri, un dessin d'esquisse originale. Donc quelque chose qui nous a plu aussi, c'est l'occasion à l'exposition de tirer des liens, tirer des fils, de montrer des choses que les seule peut-être la critique peut montrer, mais que là, au-delà des mots, les dessins incarnent ce genre de rapprochement. Et le thème de l'œil, le thème du regard, on le retrouve dans beaucoup de dessins, dans beaucoup de, et pas simplement comme un mot dans les films. Et ça m'a beaucoup plu de pouvoir révéler ce genre de choses.
And I've been walking this earth long enough that death's a gift. Been living this life so patient until I see. And their armies from above, you give me strength.
Nothing is Lost The Weeknd, extrait de la bande originale du film Avatar dans VMDN sur RFI. Mathieu Orléans, co-commissaire de l'exposition L'Art de James Cameron à la Cinémathèque française dans le quartier parisien de Bercy jusqu'au 5 janvier, est avec nous. Et le visiteur de l'exposition, Mathieu Orléans, peut emprunter un couloir et plonger dans la forêt luminescente de la planète Pandora, comme s'il pénétrait dans le film de Cameron. Des paysages qui, évidemment, contrastent totalement avec le caractère apocalyptique de Terminator ou même d'Aliens. À partir de quel élément Cameron a-t-il imaginé la végétation, les paysages de cette planète Pandora?
Alors, petite rectification, allez. On tenait à ce qu'il ne rentre pas dans Pandora, dans Avatar, mais dans un dessin. Parce que justement, vous voulez tirer ce fil du dessin du début à la fin de l'exposition. Alors, on est parti en fait d'un dessin qui est une jungle ou crique, parce qu'il y a cette dimension aquatique bioluminescente, comme vous dites, parce qu'effectivement, il y a cette lumière qui est très importante. On l'a dit, sur ces dessins noirs, la lumière vient un peu subtilement créer une réverbération, une énergie particulière. Ce dessin, il est très ancien, en fait. C'est-à-dire qu'il a été fait quand il avait, là aussi, un rêve, à 19 ans. Il rêve de cette jungle, il la dessine. Le dessin est assez petit, mais il nous semble être, effectivement, mais c'est un peu notre interprétation, la sienne aussi, une préfiguration de Pandora, d'Avatar, mais elle n'est pas connectée directement à ce film. Et on a voulu partir d'un dessin et non pas du film, parce que c'est vrai que c'était le fil rouge de ce projet. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passerait si on rentrait à l'intérieur d'un dessin avec, en adaptant un petit peu les technologies dont Cameron est le héros, c'est-à-dire effectivement l'immersion, la 3D. Alors là, on ne l'a pas fait aussi pour des raisons techniques avec des lunettes, mais il y a quand même cette impression de rentrer à l'intérieur de quelque chose qui bouge, qui se déplace, qui est une vision intérieure, numérique, moderne, contemporaine de cette forêt bioluminescente qui est celle d'un rêve plus que celle d'Avatar. Après, à chaque visiteur, évidemment, d'en tirer les liens et de se l'approprier ou de trouver qu'il y avait déjà là quelque chose de l'arbre des âmes ou de quelque chose de la spiritualité des Navy. Mais c'était plutôt l'idée de finir sur un très joli dessin de Cameron qui peut paraître un peu inaperçu si on le voit parce qu'il n'est pas très grand et que tout d'un coup, ça lui donnait de l'importance et ça permettait d'insister sur ces rêveries-là de paysages qui sont effectivement, comme vous le disiez, le négatif des images qui étaient beaucoup communiquées à l'époque, c'est en pleine guerre froide, guerre du Vietnam, de mondes détruits, bombardés, bombes atomiques, champs de bataille, etc. Et qu'il y avait aussi dans son esprit, pas que les cauchemars à la Cyborg et à la Terminator, mais aussi des rêves plus apaisés de mondes dans lesquels la nature et l'homme pourraient se reconnecter autrement.
Le premier vol scelle le lien pour toujours. Il faut pas attendre.
Vol ?
Quelques questions sur les navis, sur les personnages d'Avatar, Mathieu Orléans. Déjà, pourquoi ont-ils la peau bleue? Est-ce que vous savez la réponse à cette question?
Alors, on peut revenir à Xenogenesis dont on a parlé tout à l'heure, parce que dans Xenogenesis, il y a à un moment donné le héros et ses corps cryogénisés qui se baladent dans l'espace et qui vont tomber sur une planète où tout le monde est bleu. Ça, on le voit clairement sur les dessins, on voit une femme bleue. Et quand on a demandé effectivement à la Fondation d'où venait, si on savait d'où ça venait, peut-être d'un rêve, peut-être d'un récit qu'il avait vu, d'un épisode de comics, il avait dit que non, que ça venait d'un rêve de sa mère. Et que sa mère avait rêvé d'un peuple où les gens étaient bleus, qu'elle lui avait raconté son rêve. Il y avait donc cette circulation des rêves aussi. C'est pas que lui qui rêve, c'est sa mère, et sa mère qui raconte ses rêves à son fils. Et que l'idée lui était venue de là, en tout cas pour Xenogenesis. Après, peut-être ça a fait son chemin et ça s'est transformé en peuple des Navy. L'expo le raconte parce qu'on montre des notes préparatoires, des textes, des dessins. L'idée, je crois, au départ, c'était que voilà, il fallait inventer une peuplade, un monde, des individus qui étaient pas humains. Il y a toute cette question justement de l'adaptation du héros qui n'est pas humain, de son avatar, la question de la respiration, la question du souffle, hein, tout ça qui était très importante. Mais d'un peuple qui en même temps crée une forme de voilà dont on n'est pas effrayé. et dont on, avec lesquels on puisse se reconnaître, quoi. Donc il y a une dimension, effectivement, ils sont plus grands, ils sont disproportionnés, ils ont une dimension féline de par leur queue, leurs oreilles, mais dans leur structure corporelle, dans leur, la manière de se mouvoir, la manière, les yeux, la bouche, le visage, ils sont presque des humains, avec une forme de décalage, évidemment, mais c'était quelque chose auquel il tenait. Je crois qu'il avait, à un moment donné, dans des versions antérieures, imaginé des personnages beaucoup plus différents, on va dire monstrueux si on parle de notre point de vue, mais avec trois yeux, deux têtes, etc. Et ça te mettait tout de suite du côté du monstrueux et du côté de l'étrange, et qu'on avait du mal, du coup, à imaginer que le héros Jack puisse devenir cet avatar, tomber amoureux d'une femme avec cet aspect physique. Donc c'était quand même important. Alors le bleu, justement, permet de représenter l'altérité, la différence, l'étrangeté, tout en étant une couleur qui n'est pas trop effrayante et qui peut évoquer une symbiose avec la mer, avec les éléments, donc quelque chose qui soit aussi valorisé.
Et c'est autour du regard félin, justement, que vous avez bâti le visuel de l'affiche de l'exposition. Pourquoi vous avez choisi cette image-là, Mathieu Orléans?
Déjà, c'est pas moi qui l'ai choisi.
Oui,
c'est
j'imagine. Comme enfin, toujours, vous, la Cinémathèque, s'entend. Voilà.
Comme toujours.
À moins que ce soit James Cameron lui-même avec sa fondation qui est co-organisatrice de l'exposition.
Évidemment, on a eu son accord. C'était quelque chose d'important parce que c'est trouver une image emblématique, c'est toujours très difficile.
Bah oui.
Quand il y a beaucoup, beaucoup d'images. Et c'est vrai que, parce que peut-être aussi les Avatars sont les films les plus récents que le public connaît le mieux, qu'il y a quelque chose dans ce visage à la fois de la créature, de l'étrangeté et en même temps une forme d'humanité. C'est important chez lui, il y a toujours ces histoires d'amour, enfin l'émotivité est très importante et on sent cette émotivité dans ce personnage qui est déjà né Thierry. Et je ne pense pas qu'il avait déjà peut-être fait le casting à l'époque, donc c'est plutôt des idées qu'il avait de comment les personnages devaient apparaître. Quelque chose de très délicat dans le dessin, qui a l'air pas totalement fini sur les traits, en même temps très profond, enfin... Le dessin nous plaisait beaucoup. Peut-être que c'est vrai que... Alors ça, c'est des enjeux qui sont plutôt de communication, mais qui sont intéressants. C'est vrai que si on met tout d'un coup quelque chose plutôt comme l'alien, alors là,
c'est pas du tout le même sentiment.
Et on peut se couper peut-être aussi d'un type de public. Et Cameron, il est très aimé du jeune public, pour lequel, par exemple, Alien peut être une source un peu d'effroi, alors qu'Avatar l'est moins. Donc l'expo, elle joue sur tous ces types d'émotions. On a des moments où on peut avoir peur, des moments où on est dans l'empathie, des moments où on découvre. La peur ou disons la forme de violence fait partie du cinéma de James Cameron, donc on ne l'a pas écarté. Mais après, on peut dans le parcours choisir de se focaliser sur tel ou tel aspect. Et c'est une partie qui est plutôt... Voilà, c'est plutôt l'art qui nous intéressait que de parler de ça. Mais je trouvais que Nétiri, c'était... Enfin, on aimait tous ce visage de Nétiri qui est très beau, très émouvant et qui synthétise aussi beaucoup d'aspects du cinéma de James Cameron.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu Orléans d'être venu nous parler de cette exposition L'Art de James Cameron qui se tient donc à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 5 janvier. Et puis donc, je signale également la sortie, vous en avez dit un mot, de ce livre Tech Noir. Pourquoi l'avez-vous intitulé ainsi d'ailleurs? Pourquoi
est-ce qu'il s'appelle comme ça ? Alors, Tech Noir, c'est le nom de la boîte de nuit dans laquelle se cache Sarah Connor quand elle est poursuivie la première fois par le Terminator. On a recréé d'ailleurs le néon avec la même police de caractère que dans le film, dans l'exposition. On a un petit ensemble autour des Terminators. Et Tech Noir, il y a l'idée des dessins noirs, du noir, de la technique. En tout cas, c'est un terme qui plaît beaucoup à Cameron. Et il avait envie que le titre soit pas uniquement l'art de James Cameron, ce qui est le cas de l'exposition, mais que le livre, qui a une dimension, comme souvent un catalogue d'expo, ça va au-delà de l'expo. Il avait envie de choisir ce terme, lui correspondait un peu avec son mystère aussi.
Voilà, Tech Noir, l'art de James Cameron, publié donc par la Cinémathèque, préfacé par Costa Gavras et un avant-propos de Guillermo del Toro. Merci beaucoup une nouvelle fois Mathieu Orléans. Dans une poignée de secondes, l'info, le journal en français facile sur RFI. À demain avec la chanteuse de reggae Mo Calamity pour son nouvel album Shine, et vous m'en direz des nouvelles.